Notre Dieu, nous te remercions de nous avoir placés sur cette terre pour faire ta volonté. Et je te prie que tu nous aides encore ce soir à bien saisir quel est ton plan merveilleux pour nous. Que ton nom soit béni, glorifié, Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Ce soir, je vais vous parler de quelque chose dont je vous ai déjà parlé, mais un peu différemment, avec une autre approche. Vous savez que, avant de venir sur la terre, nous étions en présence de notre Père, de notre Créateur, nous étions des esprits, et il y a eu un grand conseil, et notre Père Céleste voulait que nous connaissions la même joie que lui, la même bonheur que lui, en devenant comme lui. Il voulait une épouse, il voulait un être divin, aussi divin que lui. Bien que créé, mais il voulait l'emmener à cette perfection. Alors, il nous a présenté son plan. Et selon ce plan, nous pouvions venir sur cette terre et obtenir un corps physique et faire l'expérience, je dirais, du doux et de l'amer. Hein, c'est-à-dire de toutes les choses, vous savez, le haut, le bas, tout ce que je vous ai déjà dit, la dichotomie, toutes ces choses. Mais nous n'étions pas obligés. Dieu, à ce moment-là, nous a donné le libre arbitre. Dans son plan, pour les élus, pour ceux qui allaient dire oui, nous voulons aller et nous voulons te glorifier et nous voulons acquérir la stature parfaite, ta stature parfaite au Dieu, alors il a dit que nous aurions à observer ses commandements justement pour pouvoir atteindre cette stature parfaite. Ou ne pas les respecter et ainsi nous priver de la joie promise. Mais il a dit ça à ses élus. Il y a des tas d'élus, enfin quand je dis des tas, disons, c'est pas très joli. Hein. Il y a beaucoup d'élus qui ont choisi de dire, on choisit la facilité, nous on veut bien venir glorifier, mais bon, voilà. Mais il y a des esprits plus ou moins forts, il y a des esprits plus ou moins vaillants, il y a de toutes sortes d'esprits. Et là, en sa présence, dans cette réunion de conseil, nous avons choisi, nous avons exercé notre libre arbitre. À ce moment-là, nous avons décidé d'opter pour une des deux possibilités, être l'épouse ou être simplement l'ami, les amis de l'épouse, et voilà. Vous savez, nous sommes responsables du choix que nous avons fait. Nous sommes responsables du choix que nous avons fait. Alors, nous les élus, nous serons sauvés parce que Dieu ne perdra aucun des siens. Il ne veut pas le faire, il ne peut pas le faire. Mais il y en a qui retourneront dans l'éternité à peu près comme ils étaient quand ils sont arrivés sur la terre, c'est-à-dire des esprits peut-être un petit peu améliorés à cause des expériences qu'ils ont faites ici-bas, et ils auront quelques récompenses, mais voilà, la Bible parle d'eux en disant, voilà, ils seront sauvés comme au travers du feu. Et puis il y aura les vainqueurs, ceux qui seront l'épouse. Vous me suivez? Là, je parle des élus, ceux qui se sont placés. Nous étions tous, sur des listes, si vous voulez. Et nous avons décidé d'être, et nous avons été élus, suivant ce que nous avons décidé. Vous comprenez cela? Et d'autres élus retourneront à Dieu en ayant acquis sur terre, dans les épreuves, dans le service fidèle, le caractère parfait, la stature parfaite de Christ. Est-ce que ça correspond aux Écritures que vous connaissez? Oui, ça correspond aux Écritures que nous connaissons. Dans notre passé éternel, on a déjà choisi, et ici-bas, nous exécutons le plan pour lequel nous avons opté, nous le manifestons. Alors, les gens, et surtout les chrétiens, croient dur comme fer qu'ils ont le libre arbitre. Ils l'ont eu avant de venir sur la terre. Ils l'ont eu. Mais maintenant, ils n'ont plus que l'illusion du libre arbitre. Qu'est-ce qui nous donne l'illusion du libre arbitre? Ben justement, la loi. La loi. Dieu a effacé notre mémoire du passé éternel, et maintenant, à cause des lois qui régissent, la dualité dans ce système créé, nous avons, tout le monde a, l'illusion du libre arbitre, l'illusion de dire, ah ben, je vais choisir ceci plutôt que cela. Jésus-Christ, dans le passé éternel, la Bible nous dit qu'il a déjà été immolé. On va le lire. Apocalypse 13, 8. Apocalypse 13, 8. C'est quelque chose, ce texte-là. C'est très bizarre pour ceux qui ne croient pas, comme nous, au sujet du passé éternel. Apocalypse 13, 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. L'agneau de Dieu qui a été immolé dès la fondation du monde. Donc, quand est-ce que l'agneau de Dieu a été immolé? On va le dire, vous pouvez vous asseoir, on va dire, oui, à Jérusalem, sur le mont Golgotha. Oui. Non, ça c'est la matérialisation de la chose qui a déjà été faite dans le passé éternel. Jésus-Christ l'a fait. Et sur terre, il est venu accomplir dans la chair cette chose qu'il a déjà accomplie, comme nous le voyons écrit là, l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Et nous, eh bien nous avons été élus avant la fondation du monde, on a aussi des textes qui le disent, en particulier Éphésiens 1, 4, et ça c'est pas une idée. C'est pas une idée religieuse, différente des autres idées religieuses. Ça fait partie de la science de Dieu. Ça fait partie une science, elle est faite de beaucoup de choses, et c'est toutes ces choses ensemble qui font que, voilà, on arrive à avoir quelque chose de réel, quelque chose d'une compréhension si vous parlez, par exemple, l'atome, vous n'allez pas simplement dire, ah ben, un atome, ça existe. Non, encore faut-il pouvoir le décrire, vous voyez ce que je veux vous faire comprendre? Il y a une science divine, et dans cette science divine, il y a cette partie qui est une connaissance tout à fait particulière, et c'est pas parce que la plupart des gens n'y croient pas que c'est pas vrai. Maintenant, sur terre, il n'y a pas que les élus au salut, il y a les autres. Il y a aussi les esprits rebelles à Dieu. Ils ont été rebelles à Dieu quand, à votre avis? Ben avant aussi. Tout s'est passé avant. Ils ont été rebelles avant la fondation du monde, et ils sont venus sur cette terre, ici, et maintenant, ils manifestent dans des corps physiques leur rébellion. Et c'est ce que Jésus, ils sont ceux dont Jésus parle quand il dit qu'ils sont livrés, dans Matthieu chapitre 13, verset 38, ils sont les fils du diable, les fils de la rébellion. Ils se sont rebellés déjà avant, et puis vous en avez qui sont rebellés et qui ne se sont jamais incarnés, mais qui cherchent à posséder les gens. Mais ils ne se sont pas incarnés, ils ont décidé, mais ils sont tellement pleutres, c'est ça, on dit pleutres, oui. Ils sont tellement trouillards et manquent tellement de courage, en réalité, qu'ils n'ont pas eu le courage de venir s'incarner sur la terre. Mais par contre, ils veulent bien venir incarner momentanément une personne, ce qu'on appelle des possédés ou les liés. Vous voyez ce que je suis en train de vous expliquer? Sur cette terre, c'est sur cette terre que les choses se passent, mais la réalité, elle existe déjà depuis avant la fondation du monde. Et c'est sur cette base que Dieu a élu certains pour la vie éternelle avec lui, puis d'autres pour la destruction. Quant donc à ceux qui se sont rebellés, ils seront détruits à la fin. Le feu brûlera éternellement, mais eux, ils seront jetés dedans, ils seront détruits. Mais ils n'auront pas à se plaindre, parce qu'en réalité, ils l'ont voulu. Est-ce que vous avez jamais entendu des gens qui disent « Ah ben j'espère que l'éternité, ça n'existe pas !» Qui se disent « Oh là 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 là, vivre éternellement, ah non, merci, mais on va s'embêter !» Qui ne veulent pas. Eh bien, ce n'est pas simplement des paroles, il y en a, c'est simplement des paroles en l'air, mais il y a des esprits qui ont toute connaissance de Dieu, ont toute connaissance des choses, ont dit « Non, nous on ne veut pas vivre éternellement avec le Créateur, ça ne nous plaît pas, on ne veut pas. » Ça paraît bizarre, Mais c'est comme ça. Ils l'ont voulu, ils se sont rebellés contre Dieu en toute connaissance de cause. Il ne faut pas venir me dire que Satan ne s'est pas rebellé en toute connaissance de cause. Il n'y a pas que Satan, il y a aussi beaucoup d'autres. Dans le passé éternel, ils ont eux aussi exercé leur libre arbitre. Est-ce qu'on pense, on pense qu'on l'exerce ici-bas. Non. Ça ne serait pas juste si c'était ici-bas. Parce qu'ici-bas, on n'a pas toute connaissance. Tandis que là-haut, quand on dit là-haut, dans le passé éternel, il y avait la connaissance de toutes choses. Satan, il connaît très bien Dieu. Lisez le livre de Job, vous allez voir, il se présente devant Dieu, il parle comme ça, là, avec Dieu. Mais il ne veut surtout pas passer l'éternité. Il dit, bon, ben voilà. Mais en attendant, je vais me battre. On va essayer d'arriver à le battre. C'est des illusions, le pauvre. L'illusion du libre-arbitre, l'illusion de pouvoir battre Dieu, l'illusion d'arriver à être au-dessus de Dieu, etc. Maintenant, tout se passe ici dans la matière et eux, c'est-à-dire ceux qui ont choisi la perdition, comme les élus, eux comme nous, nous nous trouvons ici-bas dans un monde qui a tout et son contraire. Et eux comme nous, nous manifestons ici-bas les choix que nous avons faits librement dans notre passé éternel. Alors c'est vrai qu'il nous semble, à nous comme à eux, que nous avons le libre arbitre. Il semble bien qu'on a le libre arbitre. Mais regardez les Écritures, pas ce que vous ressentez, pas ce que vous pensez, pas ce que les philosophies disent, pas ce que les religions racontent, mais regardez les Écritures. Le premier né sur cette terre, Caïn, né de Caïn, le premier qui est né sur cette terre s'est trouvé devant un choix. On va lire Genèse 4, 7. Alors, est-ce que c'est ça? Ah non, je suis dans 3 là. 4, 7. Dieu lui dit, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Comme s'il ne le savait pas. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Là, c'est Dieu qui dit ça à ce pauvre Caïn. Mais Caïn, avait-il vraiment le choix? Et les frères de Joseph, avaient-ils vraiment le choix? Ils se sont trouvés devant un choix, celui de vendre ou de ne pas vendre leur frère aux Madianites. Mais avaient-ils vraiment le choix? Lisons Genèse 45, verset 5. Voilà, ils ont vendu leur frère. Les gens pensent qu'ils ont exercé leur libre arbitre et puis qu'ils ont fait le mal. Hein? Et puis voilà que leur frère vit toutes ces histoires, il devient finalement presque le pharaon là-bas en Égypte. Et puis les frangins, des années après, retrouvent leur frère Joseph et ils ont tous peur. Ils se disent, maintenant qu'il a le pouvoir, il va certainement nous massacrer. Et Joseph leur dit, maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Alors c'est qui a envoyé Joseph? C'est ses frères en le vendant ou c'est Dieu? C'est Dieu. Alors, est-ce que les frères de Joseph ont exercé leur libre arbitre en vendant leurs frères? Et Pharaon, avait-il le libre arbitre? Avait-il le pouvoir de faire ce qu'il voulait? Lisons Romains chapitre 9. Romains chapitre 9 et verset 14-18. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Eh bien, vous voyez, donc il y a de la justice en Dieu, puisqu'il décide par lui-même pour qui il aura compassion, pour qui il n'aura pas compassion. Donc, ce n'est pas juste. Pourtant, il dit, est-ce qu'il y a de l'injustice? Non, il n'y en a pas, puisqu'il dit lui-même, j'aurai compassion de qui j'aurai compassion et je n'aurai pas compassion de qui je n'aurai pas compassion. Vous voyez que la science de Dieu, c'est autre chose que la science, la connaissance des choses de Dieu. Il faut dépasser les idées humaines. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde ou pas. Ça ne dépend pas de vous, et ça ne dépend pas de ici-bas, là. Car l'Écriture dit à Pharaon, tiens c'est bizarre, c'est l'Écriture qui parle à Pharaon. Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Si l'Écriture dit à Pharaon, ça veut dire que c'est écrit. Oui, il n'y a rien qui est écrit à l'avant. Ah ? Est-ce que vous avez vu qu'il y a eu une écriture qui était présentée à Pharaon et qui dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer par toi, en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre ?» C'est Moïse qui lui a dit ça. Même si ce n'est même pas Moïse, c'est Aaron. Mais il lui a dit, il ne lui a pas écrit. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Et c'est lui qui a endurci Pharaon. Il a envoyé Moïse pour dire à Pharaon, « Laisse sortir mon peuple. » Let my people go. Et puis par derrière, il l'endurcit afin qu'il ne le laisse pas partir. Est-ce qu'il avait le libre arbitre, le pharaon? Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore alors? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Voilà, on ne peut pas résister à la volonté de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Oh, pauvre Pharaon, pourrait dire alors. C'est pas juste. Et que penser d'Ésaü? Que penser de Jacob? Lisons Romains 9, 11, 13. Car les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Et il fut dit à leur mère, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, ah bon, j'ai aimé Ésaü, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Où est-ce que c'est écrit? Et puis ça, ça se répète tout au long des Écritures, tout au long des Écritures. Ce n'est pas une erreur des Écritures. Il faut pas essayer de chercher à réparer ça. C'est écrit comme ça parce que c'est comme ça que c'est pas autrement. Il faut pas essayer de tordre les Écritures pour essayer de leur faire dire que non, c'est pas exactement ça qui a voulu dire l'apôtre Paul ou que Moïse a voulu écrire. Non, c'est pas tout à fait ça. Non. Ça n'est pas une erreur, c'est juste, c'est écrit précisément, c'est comme ça. Simplement, c'est une science que beaucoup rejettent, point. Pourquoi? Parce que quand on approfondit cette science, ça donne le vertige. Ça fait drôle, ça fait peur. Une personne qui dit, par exemple, c'est injuste, elle se met à contester avec Dieu. Et cette contestation, c'est ça qui est injuste. C'est pas Dieu qui est injuste, c'est la contestation qui n'est pas juste. Une personne qui se rebelle contre Dieu à cause de cette connaissance en disant c'est pas juste, ne fait que de montrer qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Alors, on a le droit d'être étonné. Moi, j'étais scandalisé même un temps. On a le droit d'être étonné. Mais les élus font confiance à Dieu. Voilà ce que c'est la foi. C'est de faire confiance à Dieu et de se soumettre de cœur, même s'il faut du temps jusqu'à ce que notre intelligence humaine arrive à la stature de l'intelligence de Dieu. Parce que c'est ça qu'il faut. C'est pour ça qu'on est là. Amen. N'est-ce pas que c'est étrange? Vous voyez, donc je crois au libre arbitre. Mais scientifiquement, mais pas d'après les sciences religieuses ou les sciences sentimentales ou les sciences philosophiques, mais selon la science divine, c'est-à-dire de ce que la Bible dit. Dieu, dans son amour, nous a donné le libre arbitre dans notre passé éternel, à tous les esprits. Et nous l'avons utilisé autrefois dans notre condition spirituelle avant d'être incarné, avant de venir sur cette terre. Et maintenant, Dieu ne va pas enfreindre ce principe. Quand, dans le passé éternel, les esprits dont nous étions ont fait leur choix, Dieu a perdu un tiers de ses enfants, parce qu'il est le créateur de tout. Satan, c'est un enfant de Dieu. Il a été créé par Dieu. Judas, Caïn, toute cette équipe, et tout ce... Un tiers des esprits s'est rebellé. Un tiers a dit non, nous on ne veut pas. Il a perdu un tiers. Par amour, parce qu'il a voulu laisser libre ces créatures de choisir. Il y en a qui n'ont pas voulu se farcir l'éternité avec ce Créateur parce que ça ne leur plaisait pas. Il nous a donné le choix par amour afin que nous ne soyons pas obligés d'être éternellement avec lui. Un tiers des esprits a choisi d'être détruit. Ils ont choisi en toute connaissance de cause. Moi, je vous dis, c'est encore un effet de la bonté de Dieu de détruire plutôt que de faire comme les religions nous disent, souffrir éternellement dans un feu qui te brûle et puis t'as mal et puis t'es torturé par des démons pendant l'éternité, des éternités, des éternités. Jusque ça s'arrête jamais. L'enfer qu'on nous décrit dans les religions est une chose abominable que Dieu ne peut même pas imaginer. Il faut vraiment être un religieux tordu pour arriver à imaginer une chose pareille. Non, il détruira ceux qui ne veulent pas être avec lui pour l'éternité. Il les a créés, puis il les détruira. Ils retourneront dans le néant où ils étaient avant. Puis c'est tout. Et parmi les élus, il y a aussi deux catégories. Beaucoup ont choisi d'être paresseux. Beaucoup ont choisi d'être des chrétiens du dimanche en disant, bon, on va y aller, mais bon, voilà. Puis ils étaient, voilà, comme ils sont sur terre, un peu légers, superficiels. Leur esprit était déjà comme ça. Et nous n'avons pas le pouvoir, nous, de juger les gens parce que chaque personne a son parcours. Par exemple, ma mère, ma maman, que j'adorais, elle était une élue depuis toute éternité, mais elle a choisi de se convertir à 52 ans. Elle a voulu profiter de la vie, puis elle a fait des tas de bêtises. Et toi, Simone, combien de temps? Ben, tu vois comment t'étais, dis donc, déjà des repasses éternelles. Hein. Et puis après, tu t'es converti, mais c'était décidé. Dieu, un jour, il t'a parlé, puis t'as entendu sa voix. Et puis, c'était pas autrement que des autres fois. Chaque fois que t'écoutais une prédication, Simone, eh ben, c'est passé quoi? Tu comprenais rien. Puis un jour, il t'a ouvert les oreilles, puis t'as compris, puis c'est tout. Mais c'est lui. On peut pas venir à lui sans qu'il le veuille. Et il y avait un moment donné, et c'était, ce moment donné, ça avait été décidé. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de, c'est pas toi qui as choisi, c'est lui qui t'a choisi. Et tu crois ça? Ben moi je crois ça pour toi, je crois ça pour ma maman, je crois ça pour moi, je crois ça pour tout le monde. Et puis j'ai pas à juger. Parce que ma mère se convertissant à 52 ans a été une sainte extraordinaire. Simone aussi. Alors que vous avez des gens qui se convertissent très tôt, puis qui toute leur vie sont des nullités. De chrétiens tièdes et voilà, puis vous en avez d'autres, c'est le contraire. Enfin, il y a tous les cas de figure, on peut pas juger. Puis une personne qui est comme ça, un chrétien tiédasse jusqu'à 30, 40, 50 ans, tout d'un coup il peut se réveiller puis devenir un type extraordinaire, une femme extraordinaire dans les choses de la foi. On n'a pas à juger, ça nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Il y en a qui vivent toute leur vie comme des païens, puis qui se convertissent sur leur lit de mort. Mais Dieu n'est pas étonné. Dieu sait tout à l'avance. Chacun de nous a choisi en connaissance de cause, et aucun de nous ne se souvient de ce qu'il a choisi. C'est pourquoi Dieu nous laisse encore à tous l'illusion du libre arbitre. Et c'est très bien. C'est parfait comme ça. On se trouve tout le temps devant des choix, mais en réalité, voilà, on ne fait que de montrer notre cœur. Parce qu'au fond, la vraie question, c'est quoi? C'est quel est donc le but de cette vie sur Terre? C'est ça la vraie question. D'ailleurs, tout le monde se pose cette question. Mais pourquoi je suis venu? Dans quelle étagère? Pourquoi? Hein? Eh bien, l'objectif majeur pour les élus, eh bien, c'est de prouver leur fidélité à Dieu qui les a envoyés. C'est ça l'objectif majeur. Nous sommes capables de discerner le bien et le mal. Nous recevrons quoi, en fin de compte? Eh bien, le royaume que nous avons désiré selon les commandements auxquels nous obéissons. Selon les ordonnances que nous recevons, c'est-à-dire que nous prenons. Dieu donne à tous, mais on a le libre arbitre, en quelque sorte, l'illusion de choisir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Et aussi selon les alliances que nous respectons ou pas. Mais mes frères et sœurs, ceux qui sont l'épouse le sont déjà dès avant la fondation du monde. Mais on ne sait pas qui c'est et on ne peut pas juger. Mais en tout cas, une chose est sûre. Vous, les croyants, vous êtes des gens de noble lignage. Ça, c'est sûr. Alors, il faut le prouver en obéissant. Il faut le prouver en recevant les ordonnances. Il faut le prouver en respectant les alliances. Il faut le prouver. Ça, c'est ce que tous les prédicateurs disent tout le temps, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est ça, à ça qu'on est... On est appelé, nous avons une parole de Dieu qui nous dit, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Eh bien, nous prouvons ce que nous sommes en l'accomplissant. Et quand nous paraîtrons devant Dieu, eh bien, il nous recevra grandi ou à peine grandi, mûri ou à peine mûri. Dieu vous a élu et parmi ceux qui m'écoutent ce soir, il y en a que Dieu a choisi parmi les élus pour devenir son épouse, c'est-à-dire comme lui, divine, un être divin. Alors personne ne sait, mais tous sont placés, tous les élus sont placés devant les commandements les mêmes, les ordonnances les mêmes, et les alliances les mêmes. Et puis nous faisons la preuve, dans la matière, de ce que nous sommes. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire. Il me semble que je vous l'ai déjà raconté, mais je ne résiste pas à la tentation de vous la raconter encore. Je me sens poussé par mon non-libre arbitre à vous la raconter encore. C'est un vieil homme qui parle avec son petit-fils et qui lui dit « Il y a un combat qui a lieu en moi. C'est un combat terrible entre deux loups. Il y a un des loups qui est méchant. Il est en moi. Ce loup, il est colérique, il est envieux, il me fait du chagrin, plein de regrets, il est avide, il se sent supérieur aux autres, il est arrogant. Mais de temps en temps, il s'apitoie sur lui-même, puis il a la culpabilité, le ressentiment, l'infériorité, il y a plein de mensonges, plein d'orgueil. Puis il y a l'autre loup. Cet autre loup, il est bon. Lui, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la paix, c'est l'espérance, c'est la sérénité, c'est l'humilité, c'est la gentillesse, c'est la bienveillance. Ce loup, il est généreux, il est plein, il aime la vérité, il a la compassion, il a la foi. Puis il se penche vers son petit-fils, puis il dit, tu sais, le même combat qui est en moi, il est aussi en toi. Et il est aussi en tout le monde. Alors le petit-fils, il regarde son grand-père, il réfléchit un moment, puis il dit, papy, quel loup va gagner? Et le papy lui répond, c'est celui que tu vas nourrir. Réfléchissez et agissez. Montrez qui vous êtes. Montrez quel loup vous êtes en train de nourrir en vous. Et faites preuve de qui vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus pour cette exhortation qui nous aide à comprendre que tu ne nous en veux pas, tu n'es pas fâché, parce que tu sais déjà tout à l'avance, et tu nous as élus dès avant la fondation du monde. Et maintenant, de tout notre cœur, nous faisons avec ce que nous avons, choisi d'être et de faire. Merci Seigneur Dieu, de ce que nous ne nous jugeons pas les uns les autres, et que nous avons cette illusion du libre arbitre qui nous donne quand même toujours envie de nous parfaire, d'être mieux, afin de te glorifier, afin d'aider nos frères et sœurs, afin de bénir même ce pauvre monde qui se perd. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu es et que tu nous révèles petit à petit. Merci Jésus. Amen.